Merci messieurs, on passe maintenant au véritable débat. Comment rendre Porrentruy plus attrayante d'un point de vue démographique et économique? C'est le thème que nous allons désormais aborder. La population porrentruytienne stagne après un pic dans les années 70 avec 7800 habitants. Elle végète aux alentours de 6800. C'est tout le district qui est à la peine. Comment l'expliquer alors que la ville de Delémont est en plein essor depuis une dizaine d'années? Un boom qui se ressent aussi au niveau économique. Julien Loichat, comment réveiller Porrentruy? Faut-il baisser la quotité d'impôt pour attirer de nouvelles personnes physiques et morales?
Alors, baisser la quotité d'impôt, ce n'est pas forcément une règle absolue. On veut investir, il y a beaucoup de rattrapage à faire à Porrentruy. On l'a vu en vieille ville, mais aussi dans les infrastructures scolaires et sportives. Ces investissements, elles nécessitent évidemment beaucoup de moyens. Baisser les impôts aujourd'hui, ça nous enlèverait les possibilités de faire cet investissement qui permet ce dynamisme. Et moi, je veux véritablement qu'on mette des priorités. Juste définir qu'on veut faire 35 millions d'investissements, c'est une bonne chose en soi. D'ailleurs, c'est la capacité de financement de la ville de Porrentruy dans ses investissements annuellement, si on le répartit sur les 5 prochaines années. Ce qu'il faut, c'est du concret. C'est-à-dire, il faut construire un pôle de l'enfance, il faut construire une véritable gare routière qui réunira l'ensemble du district, qui sera un vrai carrefour de la mobilité, qui sont des éléments qui permettent après aux entreprises d'être accueillies. Et puis, il faut surtout se préoccuper de l'accueil des nouvelles entreprises, mais aussi, et on a des fois tendance à l'oublier, de s'occuper des entreprises qui sont déjà sur place et qui parfois ont des difficultés, parfois fonctionnent très bien, il faut les soutenir et être à côté d'elles. Et c'est par ce développement-là, c'est-à-dire le développement des entreprises, mais aussi de tout ce qui va autour, l'accueil des familles, par exemple, qu'on permettra l'essor nécessaire à la ville de Porrentruy. Il ne faut pas oublier que les projections qui sont prévues dans l'horizon 2030, c'est une augmentation de 1750 habitants sur l'ensemble du pôle urbain de la ville de Porrentruy, donc la ville et les communes qui l'abordent. Il ne faudra pas s'attendre donc non plus à atteindre les 8000 ou 8500 habitants, puisqu'il y aura une répartition de cette augmentation de population.
Gabriel Voirol, est-ce qu'une fiscalité plus avantageuse résoudra tout le problème?
Non, ça ne suffira pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une phase où on doit avoir un rattrapage relativement important. Je crois qu'on s'entendra tous sur cette question-là, sur les montants. Pas plus tard que ce matin, en tout cas quatre qui sont autour de la table, sont entendus sur les montants à investir et sur les projets à réaliser. C'est vrai qu'on doit être soucieux de la fiscalité, parce que les personnes, évidemment, je suis un radical un petit peu à l'image de Broulis, qui dit clairement que quelque part, il faut des impôts, parce que quelque part, c'est une justice d'en avoir, mais il ne faut pas en payer plus que l'on en doit. Aujourd'hui, on est dans une situation relativement difficile, parce que ces investissements à rattraper vont coûter relativement cher, mais on peut se les financer, parce que c'est vrai que la planification financière démontre que c'est faisable. Par contre, on a aussi un certain nombre d'inconnus qui vont arriver, en particulier la RIE3 qui n'a pas été acceptée, mais qui reviendra immanquablement. On a aussi la baisse fiscale cantonale d'1% qui va aussi avoir des influences sur nos budgets et nos comptes. Et puis évidemment, on bénéficie aujourd'hui d'une situation assez favorable avec des taux d'intérêt très très bas, mais il suffirait que ceux-ci réaugmentent, ne serait-ce de ce qu'ils étaient il y a 3 ans, pour que la situation soit un peu plus problématique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le moment de parler de baisse de la fiscalité, mais ça doit rester quand même une préoccupation parce que les citoyens sont très attentifs à cela.
Est-ce que ça doit rester un objectif?
Non, à moyen terme, c'est pas un objectif. À un moment donné, on doit peser ce que l'on a besoin. Et puis en fait, on ne doit pas aller puiser nécessairement si quelque part on n'a pas les ressources qui le réclament.
Philippe Eckertz-Filler, quel genre d'habitat faut-il promouvoir pour loger d'éventuels nouveaux habitants?
Mais écoutez, pour que Porrentruy soit attractive, il faut que Porrentruy ait de l'ambition. Et je crois que là, Porrentruy doit se donner une ambition forte. C'est une ville-centre importante. Et je crois qu'il faut qu'on développe non seulement l'habitat, mais qu'on développe l'ensemble des projets pour la ville de Porrentruy. On parle de la rénovation de la patinoire. Je crois que c'est un projet qui est important, non seulement pour Porrentruy, mais pour son ensemble, pour l'ensemble des communes à Joulotte. Donc je crois sincèrement qu'il y a à investir pour trouver de l'attractivité. Il y a bien entendu la rénovation de la piscine qui va se faire tout prochainement. Il y a à rendre un centre ancien plus attractif, et ça j'y tiens. Je crois que si on veut davantage d'habitants en ville de Porrentruy, il faut donner des conditions cadres au centre ancien. Et aujourd'hui, les conditions cadres ne s'y prêtent pas. Donc on peut s'imaginer quand même qu'avec un centre ancien attractif, on va faire venir de la population à Porrentruy. Bien sûr, il faut continuer à investir. Il faut continuer à investir dans la culture à travers le CCDP, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi à travers nos différents musées. Je crois qu'on a une diversité au niveau de nos musées qui sont juste extraordinaires. On parle bientôt d'un musée de l'Alambic, on parle d'un musée Plon-Quéré-Plon, qu'on parle d'un musée Jurassica, et je crois que des projets de cette envergure-là sont des projets à mettre en avant, à développer, et il faudra être présent quand Jurassica va partir dans son projet muséal. Mais il faut aussi, à travers une économie forte, aller de l'avant. Il faut que cette économie puisse être aussi diversifiée. On a un savoir-faire au niveau de la région en lien avec tout ce qui touche à la boîte de montre, mais je pense qu'on pourrait se rapprocher de la pharmaceutique baloise. On est à côté de Bâle, et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais je crois qu'il faut aussi avoir ou donner la possibilité à nos entreprises de se développer. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Je crois que ça a été dit. On a des entreprises qui doivent permettre de se développer, et ça, il faudra aussi qu'on regarde comment les choses peuvent se faire. Bien entendu, il y a tout le plan directeur de la gare à anticiper, à réfléchir. Voilà encore une solution pour densifier. Voilà encore une solution pour amener davantage de population à Port-en-Truy. Donc le plan directeur de la gare, qui, je le rappelle, s'est arrêté en 2014. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais voulu voir des choses se construire derrière ce projet. Et puis, il faudra aussi qu'on soit facilitateur dans les dossiers, principalement dans le dossier de la création d'une salle de gym. Je crois qu'il y a une forte attente à ce niveau-là, et la commune doit pouvoir jouer les facilitateurs. Mais pour tout ça, c'est ce que je disais en préambule, il faut faciliter les procédures. Aujourd'hui, les procédures administratives, les procédures politiques sont beaucoup trop lourdes, et je crois que là, dans cette prochaine législature, il sera impératif de corriger le tir.
Pascal Bedin, passons à vous. Plus précisément, concernant le restaurant de l'Inter à Port-en-Truy, qui a de la peine à attirer donc de nouveaux gérants, quelle est votre recette pour pérenniser cette brasserie ?
Moi, bon, ce que je pense avec l'Inter, c'est au niveau de la location. Moi, je trouve que c'est surfait, quoi.
On vous parle du restaurant de l'Inter, de la brasserie.
Oui. Ben justement, ça ne joue pas avec l'Inter, parce qu'il y a, l'année passée, j'ai regardé, ça fait 247 000 de déficit. Et il faut avoir des comptes sains dans une ville de 6 800 habitants. Et puis justement, ben ici, ben le loyer est très élevé. Donc déjà ça, il faudrait voir, moi je dirais, de moduler le loyer comme d'autres édifices publics, d'autres restaurants.
Et sinon, plus globalement, pour développer, pour améliorer l'attractivité de Port-en-Truy, vos recettes.
J'avais pensé notamment avec un marché couvert pour les commerçants locaux, avec des prix modérés, par exemple sur la place de l'Esplanade, ou bien sur le terrain en face de la salle de la place de jeu du séminaire, revitaliser, ou bien par exemple à la Grand Rue faire un magasin de spécialités espagnoles, ou bien là, aux Annonciades. Italienne, parce qu'il y a beaucoup aussi d'Italiens, ça se perd, quoi. Il faut revitaliser, comme avec la zone piétonne, en 80 j'y étais, j'étais étudiant au lycée, avec M. Florenzo Motti, et puis là c'était le maire PDC Teubé, ça avait bien fonctionné, cette zone piétonne, à la rue des Besses, à la place Varre-Vartense. Et puis aussi de, comme moi je suis un supporter de la fête du Faubourg, pourquoi on pourrait pas relancer la fête du Faubourg les années impaires, parce qu'avec la braderie, c'est peut-être pas suffisant, selon moi. Voilà.
Pierre-Arnaud Fugue, pour améliorer l'image de Port-en-Truy, est-ce qu'il faut miser sur des actions coup de poing comme Super Balayeur ?
Je crois que Super Balayeur, effectivement, a contribué à embellir l'image de Port-en-Truy. C'était avant tout un moyen aussi de revaloriser le personnel de la voirie. On avait un certain nombre de problèmes finalement au départ pour trouver des gens qui sont essentiels pour nous, les dévoyés, qui sont d'accord de balayer nos rues. Ils contribuent tous les jours à l'embellissement de la ville et c'était finalement une corvée pour eux. Donc le premier but c'était de les valoriser, je crois qu'on a bien réussi, je crois qu'aujourd'hui au niveau de la voirie, ces gens, je ne veux pas dire que c'est des superstars, mais c'est des gens qui sont connus et reconnus. Ça, c'était un des moyens, évidemment, en termes d'image. Si on prend ce thème d'image, je crois qu'il ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on sait qu'avec le nombre de logements qui vont être créés à Port-en-Truy, il y en a en 300 et 400 ces 5 prochaines années, c'est énorme. on n'arrivera pas à les remplir s'il n'y a pas une politique derrière qui s'instaure et une politique de marketing territorial. Donc on doit aller chercher des gens ailleurs. Évidemment, on ne va pas aller les chercher tout proche de chez nous. Il faut aller les chercher, je dirais, là où ils sont et là où la qualité de vie n'est peut-être pas celle qu'on a ici. Ça, c'est un premier point en termes d'attractivité. Il faut, aujourd'hui, qui dit attractivité, dit plan directeur régional. Je crois qu'il faut voir l'attractivité d'une région avant de voir l'attractivité d'une ville. Évidemment, Porrentruy joue ce rôle de moteur pour la région, mais la réussite, je dirais, de l'attractivité doit se faire au niveau régional aussi. Dans mon programme, j'ai indiqué de miser sur le bien-être. Je crois que c'est indéniable qu'à Porrentruy, on a un bien-être. On a retrouvé effectivement des rues fleuries et des rues propres. On a, je dirais, grâce effectivement aussi aux personnes autour de la table, on a réussi ce tour de force-là. Il faut l'accentuer. Et je propose de créer des nouveaux parcs, notamment le parc Saint-Germain, de redonner vie à des parcs qui ont existé, le parc des Tilleuls, ou revoir la conception Benlin, et je dirais, près de l'étang. Ça, c'est quelques idées en matière de bien-être. Il faut évidemment, qui dit attractivité, dit emploi. Il faut pouvoir créer de l'emploi. Alors, on a des zones industrielles qui se remplissent bien. Aujourd'hui, donc, on en est à notre troisième usine de relais qui est en construction. Elle sera pleine à moitié donc, d'ici à la fin de l'année prochaine. Et on a aujourd'hui trois projets avec des paiements d'art sur le Voïbeux. Donc, on a des entreprises qui sont des entreprises locales. Je sais plus, je crois que c'est Julien Lochat qui le disait, qui sont des entreprises locales qui se développent et puis qui vont s'implanter donc prochainement sur le Voïbeux. À ce titre-là, j'aimerais quand même relever qu'on a eu sur la dernière législature une augmentation de 25% du nombre d'entreprises sur Porrentruy. C'est quand même 125 nouvelles entreprises et ça, c'est très important. On ne le dit pas assez. En termes d'économie toujours, je crois que l'attractivité passe aussi par ce qu'on appelle la tertialisation. Rendre tertialiser, si on veut, l'économie dans le domaine du tertiaire, c'est-à-dire dans le domaine des services. Qui dit entreprise dit aussi infrastructure au niveau des services. Et ça, on doit pouvoir le développer beaucoup plus, notamment dans le secteur de la vieille ville, c'est tout à fait adapté, et dans le secteur de la gare, où là, aujourd'hui, on pourra effectivement créer des centres de compétences à ce niveau-là.
On parlera de la vieille ville tout à l'heure, c'est le deuxième thème de ce débat. Pour rebondir sur une pierre qu'a lancée, une petite pierre, dans le jardin, je ne sais pas si c'est du maire ou si c'est du conseil communal, de manière générale, des autorités de Porrentruy, depuis 2014, plus rien n'a bougé autour de la gare.
Ça m'est destiné la question ?
Oui.
Alors, bien volontiers.
Avant de passer la parole aux autres, bien sûr.
Alors, non, pas plus rien ne s'est passé autour de la gare. Je crois que la problématique de la gare était bien connue. Elle est liée aux quais de déchargement pour les cargos domicile. Et à ce niveau-là, on vient de trouver une solution pour déplacer ce quai de la gare sur la commune d'Halle. Et aujourd'hui, on peut, si vous voulez, on pourra rediscuter avec les CFF pour pouvoir faire de ces quais une zone qui soit aujourd'hui commercialisable et qu'on puisse acquérir pour un centre d'affaires, par exemple.
Donc c'est juste la faute à pas de chance, M. Gertzwiller.
Ah non, ça, j'y crois pas. Je crois que la faute a pas de chance, j'y crois pas. Mais je crois que effectivement, il a fallu résoudre un problème qui était le quai de déchargement. Aujourd'hui, ce quai de déchargement, on sait où c'est qu'il va s'implanter. Mais moi, j'aime anticiper les choses. Et je crois qu'il faut qu'on sache davantage anticiper sur la ville de Porrentruy. Ça, c'est une force que peut-être de Lémon a, que nous, on devrait pouvoir essayer de développer dans ces prochaines années. C'est de savoir se projeter dans l'avenir et savoir anticiper. C'est-à-dire essayer d'imaginer comment, en fin de compte, sera le concept de la gare dans ces prochaines années. C'est ça que j'ai voulu dire. Après, bien sûr que les choses, elles se font à un rythme normal, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ce problème d'anticipation, c'est quelque chose qu'il faudra vraisemblablement régler, mais il est aussi en lien avec toutes ces procédures qui sont trop lourdes et qui demandent du temps pour arriver à trouver des réponses.
On y reviendra sur les questions de procédure. Gabriel Voirol, vous vouliez...
Oui.
Intervenir.
Oui, par rapport à l'anticipation, c'est vrai qu'en général, les plans directeurs sont prévus précisément pour anticiper, parce que c'est quelque part une vision à 15-20 ans. Alors c'est vrai qu'il n'est jamais facile ou il est particulier des fois de discuter avec les CFF parce qu'ils ont beaucoup d'interlocuteurs et c'est pas toujours facile d'avoir les bons autour de la table. Mais par contre, il y a un aspect qu'on a sans doute manqué. C'est vrai qu'ils ont à Port-en-Truy au niveau des CFF toute une zone qui a été mise en zone constructible et qui leur appartient. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû un peu mieux négocier cet aspect-là pour en fait les mettre en zone ce secteur, mais en contrepartie qu'ils accélèrent les processus afin de libérer, parce que quelque part, ce qu'est de chargement, de déchargement, a joué un obstacle. Il y avait aussi d'autres obstacles. Hein. Il y a des questions de patrimoine, en particulier sur la démolition d'un bâtiment qui a aussi posé un certain nombre de questions. Et puis, bien évidemment, il y a aussi la gare routière qui est un enjeu dans cette zone-là, puisqu'il s'agit ces prochains temps de trouver une solution par rapport à ces bus, à la sortie et puis à l'accessibilité. Mais je pense que l'anticipation était prévue, mais on a peut-être manqué justement au niveau du plan directeur, du plan d'aménagement local, une anticipation et puis une négociation ferme avec les CFF.
Julien Loichamp, quelques mots. Le plan de
gare. Oui, en quelques mots, un plan directeur, ça sert surtout à avoir de la cohérence dans le développement qu'on souhaite amener dans un endroit aussi essentiel que celui de la gare. L'anticipation, c'est d'être en contact permanent avec les différents partenaires. Ça n'a effectivement, comme vient de le dire Gabriel Varol, pas forcément été le cas où les négociations n'ont pas été faites comme elles auraient dû l'être. On n'a pas que les CFF comme partenaires dans le quartier de la gare. Il y a déjà tous les propriétaires actuels, il y a aussi la Poste. Il y a beaucoup de discussions qu'on peut amener. Regardez par exemple ce qui se passe pas plus loin que chez notre chère sœur de Lémont, où la Poste va investir des montants astronomiques dans la construction de bâtiments. On doit pouvoir se mettre à table ces gens et puis avoir véritablement un coup d'avance. Et puis le problème de Port-en-Truy, c'est qu'on fonctionne malheureusement par moments un peu trop à l'opportunisme, au projet qui arrive, alors qu'il faut pouvoir effectivement anticiper, voir plus loin, voir le coup d'après. Et évidemment, les plans directeurs sont là pour cette cohérence, mais l'anticipation, c'est le rôle du maire, c'est le rôle d'un conseil municipal, d'aller au contact de ses partenaires pour pouvoir amener ce développement. Et surtout, c'est à nous par moment d'amener la première pierre. Regardez ce qui se passe avec la ligne d'Ille-Belfort. Si le canton du Jura n'avait pas investi un jour un certain montant pour la gare de Delle, peut-être que nous ne parlerions pas aujourd'hui de cette voie qui sera une voie de développement aussi pour Port-en-Truy. Donc il faut aussi savoir être l'aiguillon qui permet d'amener ces personnes à anticiper et à monter des projets. Et malheureusement, Port-en-Truy aujourd'hui a fait beaucoup de choses en termes de communication et d'image, mais peut-être pas suffisamment en termes d'anticipation pour la création de projets.
Voilà, merci messieurs. Le temps file. Bientôt une demi-heure de débat. On va passer à la question à noter. C'est le libellé, le meilleur libellé qu'on a trouvé pour ce petit exercice. Vous avez des petites cartes devant vous, de 1 à 6, et on aimerait savoir ce que vous pensez vous-même de ce qu'on entend régulièrement, ces reproches. Vous faisiez d'ailleurs allusion vous-même tout à l'heure, ces reproches relatifs à la lenteur dans le traitement de certains dossiers dans la région à Port-en-Truy en particulier. Est-ce que ces lenteurs vous paraissent justifiées? Quelle note, chacun de vous, et on va commencer par M. Bedin, quelle note attribuez-vous à l'efficacité dans la prise de décision communale à Port-en-Truy?
Alors moi, c'est 3. Alors, j'explique en quelques mots. Moi, ce que je trouve, il y a trop de bâtiments vétustes. Et puis, il y a beaucoup de brandrutins et brandrutaines qui vivent dans des conditions insalubres, comme à la rue Perpignan 24, dans des appartements, si on peut dire, entre guillemets. Et puis ça, justement, je suis un fer de lance de cette affaire. C'est qu'il y a des personnes qui vivent dans 20 mètres carrés, dans des greniers, avec des toilettes et puis des... avec douche dans le corridor. Alors, quand on me dit vieille ville, cœur cité, faudrait d'abord déjà rénover ces appartements et puis que les brandrutins et brandrutaines aient des conditions de vie acceptables.
Merci. Voilà. Monsieur Loichamp.
Alors, j'ai mis la note de 4 parce qu'on prend effectivement des décisions, mais le processus est souvent long. On peut prendre des exemples concrets qui fonctionnent très bien, comme la délivrance des permis. Encore une fois, je veux pas citer Delémont en exemple toute la soirée, mais c'est un exemple parce que ça a été redit. Les investisseurs apprécient de pouvoir travailler avec la ville de Delémont parce qu'on répond rapidement, on a une cohérence. Et tout cela, on peut le travailler. C'est pour cela que je mets la note de 4, parce que les décisions sont là, on anticipe les études. Mais malheureusement, il manque le petit coup de fouet pour la réalisation.
Philippe Gertzwiller.
Alors moi, je mets la note de 4. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une lenteur liée aux personnes qui sont autour de la table du conseil municipal. Je crois qu'il y a vraiment un travail à faire sur la refonte du ROAC. Et ça, c'est vraiment un des dossiers prioritaires qu'il faudra amener sur la table du Conseil lors de la prochaine législature, parce que ce REAC conditionne en fin de compte à la rapidité à laquelle on va pouvoir travailler. On est déjà en train gentiment de travailler sur un autre règlement qui pour moi aussi est hyper important dans l'avancement des dossiers, c'est le règlement des constructions. C'est vrai qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il fallait avancer, il fallait faire ce pas de revoir nos différents règlements, et on a tout dernièrement commencé à travailler sur ce règlement des constructions. Donc ces procédures, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, doit pouvoir être allégé.
Le ROAC, juste pour rappeler, le règlement d'organisation et d'administration communale.
Pierre Arnaud Fugue.
Alors je vais mettre également une note de 4, parce qu'on est parti, je dirais, de loin. Juste à titre d'anecdote, au départ, quand j'ai pris l'administration pour prendre simplement un plan en administration, ben, on allait prendre l'immense plan, le plier dans tous les bouts, on pressait sur la photocopieuse et on le donnait. Aujourd'hui, on est dans un style de géoportail. Je crois qu'on a le meilleur géoportail de tout le canton et qui est même envié en Suisse romande. Donc, pour dire qu'on a aussi fait quelque chose, 2000 décisions en 4 ans et demi, 2000 décisions. Ça fait à peu près 1200 dossiers. Je crois que ça montre un peu le volume aussi des décisions et de ce qu'on a pu faire. Donc effectivement, on met souvent en cause la lenteur des choses. Je crois que la lourdeur de la législation est aussi en cause. Et aujourd'hui, je pense que Philippe Grichy a raison. On doit s'attaquer à ça pour nous donner les moyens, donner les compétences aussi, en termes financiers, d'aller plus vite.
Gabriel Warola.
Alors, je donnerai deux notes, parce que pour la Confédération, je mettrai le 1, parce que c'est vrai qu'avec le nombre d'exigences qui sont posées aujourd'hui en termes de construction, quand on voit que l'on reçoit du canton des recommandations et puis qu'ils étaient autour de la table et puis que finalement on n'arrive même pas à s'entendre sur ce qui a été décidé lorsqu'on était précisément autour de cette table, moi je mettrai 1. Je mettrai 3 pour chez nous, parce que là aussi on doit pouvoir faire un petit peu mieux, c'est-à-dire que parfois on est peut-être un petit peu trop perfectionniste, et puis il faut des fois un peu oser. Et je partage aussi, bien évidemment, l'avis des questions du règlement d'organisation, avec plus de compétences pour que ça aille un petit peu plus vite. Je crois que Delémont, c'est vrai, a beaucoup avancé, mais si on regarde des fois le moment où ils font démarrer un projet et au moment où il aboutit, ça met à peu près le même temps qu'à Porrentruy. Simplement, c'est vrai qu'on est un peu sous les feux de la rampe avec beaucoup de dossiers qui arrivent ces temps-ci, et puis c'est vrai qu'il y a des éléments qui n'ont peut-être pas été suffisamment anticipés dans les plans spéciaux et autres. Et aujourd'hui, on doit en réaliser un grand nombre dans un délai de temps relativement court.